j'ai lu le livre frustrant et fascinant que les éditions Macula viennent de consacrer à l'œuvre algérienne de Fernand Pouillon. Frustrant car c'est l'œuvre de deux photographes et non une monographie d'architecture. Frustrant car le lieu de ma rencontre avec l'œuvre de Pouillon, l'hôtel Gourara de Timimoun, avec sa forme de dentier croquant dans le désert, n'y figure pas. Frustrant que cette assertion fabuleuse dans un des textes rassemblés selon laquelle Fernand Pouillon aurait été l'homme qui aurait le plus construit au XXe siècle se trouve assez peu argumentée, sinon par ses nombreuses photos de grands ensembles en décrépitude. Mais fascinant, ce livre l'est, et justement en raison de cette décrépitude, la patine du temps a profondément embelli les constructions de Pouillon. Cela tient essentiellement à un choix constructif, un choix qui fut d'ailleurs aussi celui d'Haussmann et qui fait qu'un siècle et demi après sa construction, le Paris du Second Empire tient remarquablement bien. Le choix de la pierre plutôt que celui du béton, la confiance accordée au temps long de la géologie plutôt qu'aux audaces clinquantes de l'architectonique. On connaît, on aperçoit d'ici le grand ensemble de Meudon-la-Forêt, construit au début des années 60, et ses grandes barres sont encore aujourd'hui parmi les plus belles de France. Leur calcaire n'a pas bougé, il resplendit comme s'il venait de sortir de sa carrière, alors que des bâtiments de 10 ans à peine partout s'effondrent sous nos yeux, avec leurs plaquages de briques qui se décollent, leurs crépis qui noircissent, leurs balcons qui se fendillent. Fernand Pouillon a témoigné d'un soin précieux qui rend ses constructions anormalement pérennes. On connaît son goût de la pierre, il est l'auteur d'un roman, Les pierres sauvages, sur la construction de l'abbaye romane du Thoronet. On connaît aussi ses ennuis avec la justice et cette affaire de corruption qui devait l'emmener en prison et lui faire perdre sa qualité d'architecte. S'en suivront un retentissant exil algérien. C'est cet exil bâtisseur que nous raconte le livre de Daphné Bengoa et Léo Fabrizio. C'est a priori le type même de l'ouvrage qui m'agace, plus humaniste que brutaliste, avec des gens devant les immeubles. Je déteste les photographies d'êtres humains, c'est mes limites dans mes rapports à la photographie. J'avais ainsi tout à craindre du titre de l'ouvrage, Fernand Pouillon et l'Algérie, bâtir à hauteur d'homme. Mais j'en suis arrivé très vite à la conclusion que cette fois, les humains étaient nécessaires à la bonne compréhension de l'image. C'était un livre sur la patine, chez l'architecte le mieux préparé à la subir, dans le pays le mieux préparé à lui donner. Il fallait qu'il y ait ces habitants, ces machines à dérégler, ces machines à habiter. Ces façades étaient confusément prêtes à accueillir des antennes paraboliques et des climatiseurs. Le chef-d'œuvre algérien de Pouillon, la cité des 200 colonnes d'Alger, apparaît au détour d'une double page comme un équivalent éblouissant, impérial et à demi ruiné du Parthénon d'Athènes. Des toits terrasses et des murs nus, des pare-soleils et des formes pures. On sait ce que l'architecture moderne doit à l'architecture méditerranéenne et on n'est pas surpris de voir le grand vaisseau fantôme de la charte d'Athènes s'encastrer ainsi dans sa terre natale et renouer miraculeusement avec la grande épopée du classicisme. Cela n'est pas plus extraordinaire que ces façades haussmanniennes qui font un instant douter à Oran ou à Alger, du côté de la Méditerranée où on se trouve. On parle aujourd'hui de gens nouvelles pour restaurer la Casbah d'Alger. Je n'oublie pas que c'est devant l'un des chefs-d'œuvre de celui-ci, le palais de justice de Nantes, dont les belles ardoises angevines commençaient à blanchir et à se détacher, que j'ai commencé à douter de l'architecture moderne. C'était l'époque, toujours en cours, où on reconnaissait une construction récente à la désespérante résille qui l'empêchait déjà de tomber en ruine. Tout ce dont je me rappelle de ma visite du musée du Quai Branly, c'est derrière une meurtrière de la feuille de bitume d'un morceau de toit qui se décollait sous des cailloux de rivière, dans une partie anormalement négligée de l'édifice, aux tôles mal jointes et colorées. L'œuvre de Pouillon échappe à cette malédiction du détail. Même ces cités balnéaires fermées depuis les années noires, ces piscines assoiffées, ces hôtels évidés de leurs chambres ont tenu, même entraînés dans la ruine, tout cela a gardé quelque chose d'habitable, d'aussi frustre mais d'aussi sécurisant qu'un monastère roman, loin de tous ces problèmes d'étanchéité qui déparent nos miracles d'ingénierie contemporaine.